Vous êtes sur 87.1 à l'écoute de Couleur FM. Aujourd'hui, Michel Guillet vous emmène sur les chemins du Nord-Isère à la découverte de la commune de Trèpes. Trèpes, commune d'environ 2000 habitants pour une superficie d'environ 16 km², est située en bordure sud-est de l'île Crémieux. Martine Baird en est le maire depuis 2014. Il se murmure que Trèpes tiendrait son nom de son sol et voudrait dire très peu de terre. En effet, Trèpes est connu pour ses pierres et on y voit encore de nombreuses traces des carrières d'exploitation de cette pierre. Le métier de tailleur de pierre y était très courant. Aujourd'hui subsiste dans ce domaine d'activité au nord de la commune l'importante implantation de la Société européenne des choses et liens. Jusqu'au 31 décembre 2016, Trèpes faisait partie de la communauté de communes des Balmes dauphinoises. Depuis le 1er janvier, avec la fusion de 3 communautés de communes du Nord-Isère, elle est l'une des 47 communes de ce nouvel ensemble. Trèpes offre plusieurs singularités. Sur le fronton de sa mairie, on y découvre « Travail, paix, liberté » à la place de la traditionnelle devise « Liberté, égalité, fraternité ». Trèpes partage cette singularité avec la commune de Vasselin, près de Morestel, à la différence près que l'ordre n'y est pas le même. À Vasselin, on peut lire « Liberté, paix, travail ». Sur le monument aux morts, c'est à ses enfants morts à la guerre qui remplace l'habituel « mort pour la France ». À l'intérieur de la mairie, on y découvre cette surprenante galerie des portraits de tous nos présidents de la République depuis Louis Napoléon Bonaparte. Il n'en manque aucun. Trèpes est une commune active avec un tissu associatif conséquent et un bon tissu économique tant sur le plan industriel que sur le plan agricole. Je suis avec Madame Martine Baird qui est maire de Trèpes. Madame, vous êtes maire de Trèpes depuis combien de temps ?
Depuis 2014, donc nous sommes au milieu du mandat.
Auparavant, vous aviez des fonctions aussi dans la municipalité ?
Oui, j'ai fait un premier mandat de 6 ans en tant que premier adjoint.
Je crois que vous avez aussi une activité professionnelle. Est-ce que c'est pas difficile de concilier l'activité professionnelle, l'activité d'élu et aussi une vie familiale ?
Alors, si bien sûr c'est compliqué puisque j'ai la chance d'avoir une activité professionnelle très intense qui me prend beaucoup de temps. La mairie prend aussi beaucoup de temps. Mais la différence entre les deux est tellement énorme que je fais très bien la coupure. C'est-à-dire, quand je suis au travail, je suis au travail. Quand je suis en mairie, je suis en mairie. Et c'est tellement différent que finalement, ça se passe très bien. C'est-à-dire, j'alterne mes journées entre travail et mairie. Évidemment, il me reste un petit peu de temps pour la vie familiale, mais je suis une grand-mère aujourd'hui. Donc, je n'ai plus mes enfants à charge. Donc, c'est ce qui facilite aussi mon engagement.
Oui, mais grand-mère, ça veut dire qu'il y a les petits-enfants aussi.
Le peu de temps libre que je consacre à ma famille, c'est mes petits-enfants d'abord.
Parlez-nous un petit peu de votre commune. Quelle est sa taille ? Quelles sont les grandes lignes de son tissu économique ? Son histoire ? Sachant que nous avons rendez-vous avec Madame Piraudon vendredi matin.
Je laisserai le côté histoire à Madame Piraudon. Au niveau commune pure, nous sommes une commune de un peu plus de 2000 habitants maintenant, qui s'étend sur 15 km². De par sa position assez stratégique puisqu'on est dans le triangle Bourgoin-Crémieux-Morestel qui nous confère certaines attractions puisque en fait on a beaucoup de gens qui viennent habiter ici du fait qu'on est près de tous les axes autoroutiers, on n'est pas loin des gares, on a tout le nécessaire sur le village et puis on n'est pas loin des grandes villes comme Bourgoin où on trouve d'autres services. Au niveau économique, eh bien on a quand même la chance d'avoir un des fleurons européens qui est l'entreprise MTB qui nous représente bien au-delà des frontières de la France puisque ce sont des gens qui travaillent énormément à l'export dans le domaine du recyclage. On a nos carrières avec l'extraction de pierre, on a quelques entreprises artisanales et puis les commerces. Et une fierté aussi, c'est que dans très peu de temps, début avril, nous aurons notre épicerie qui va rouvrir après 5 ans de fermeture.
Vous êtes partie de la communauté de communes des Balmes dauphinoises, donc de 7 communes. Et depuis le 1er janvier, vous faites partie d'une communauté de communes qui s'appelle les Balcons du Dauphiné, qui sont le résultat de la fusion de 3 communautés de communes et qui représentent 48 communes. Ça doit faire un gros changement, ça.
Alors effectivement, on était 8 communes et on était à environ 11 000 habitants. On se retrouve à 47 communes et 73 000 habitants.
Trèpes est une commune qui se situe sur le bord de l'île Crémieux et qui a une activité autour de la pierre depuis très longtemps. Est-ce que son nom en découle ?
Oui, son nom en découle puisque la légende dit que Trèpes, ça voulait dire très peu de terre. Donc, très peu de terre égale beaucoup de pierre. Et effectivement, à une époque de la commune, il y avait beaucoup de tailleurs de pierre. D'ailleurs, on a encore des vestiges, ça et là, de carrières et d'anciennes carrières.
très aussi un gros patrimoine, et donc chapelle de Cosance, le château de Serrières, des restes de four à chaux, une mairie qui a quelques caractéristiques, donc vous allez nous en parler, et le monument aux morts qui a aussi quelque chose de caractéristique.
On se plaît à dire que Trèpe était un village anticonformiste, avec bien sûr ses insignes sur ce fronton de mairie qui est travail, paix, liberté. Également sur le monument aux morts, puisqu'on peut lire Trèpe à ses enfants morts à la guerre. Et puis une des particularités aussi, c'est notre galerie de portraits des présidents dans notre salle des mariages. On est une des rares mairies en France à posséder tous les portraits des présidents jusqu'à ce jour.
Trèpe aussi, comme beaucoup de villages, a ses personnages qui sont des personnages célèbres ou moins célèbres, en particulier je pense à des gens issus de la famille de la Poippe, donc le château de Serrières.
Le château de Serrières, effectivement, avec surtout personnage illustre Roland de la Poippe, qui est bien sûr un fondateur de la Méharie, célèbre Méharie, qui a inventé aussi le berlingot d'op, et puis qui a créé le Marineland dans le sud de la France, qui a eu une carrière aussi militaire impressionnante, puisqu'il faisait partie du Normandie-Niémen.
Je crois même qu'il était le dernier commandant de Normandie-Niémen.
Ça a été le dernier commandant et il a été illustré à ce titre à plusieurs reprises.
Pour résumer, pour finir, Trèpe, un petit village très attachant.
Très attachant et je dirais très dynamique de par ses nombreuses associations. Il se passe toujours quelque chose à Trèpe. Chaque week-end, il y a quelque chose qui se passe, que ce soit des activités dans la nature, que ce soit des activités culturelles, on a des groupes de musique. Enfin, c'est un village qui bouge. Et évidemment, c'est le plus beau village.
Merci beaucoup, Madame Bern. L'histoire de Trèpe est pour une part liée à sa position géographique et à son sol. C'est une commune qui a exporté des matériaux et son savoir-faire lié à la pierre aux quatre coins de la France et même au-delà de l'Atlantique. Il reste à ce jour une entreprise de ce type sur la commune. Autre activité importante aujourd'hui disparue, le textile, avec entre autres la célèbre chemiserie La Lionne. Également, point marquant de son histoire, la famille de la Poippe de Serrières, qui a occupé le château situé aux portes du village pendant 7 siècles. Deux membres de cette famille ont été célèbres. Le général Jean-François de la Poippe, militaire qui a traversé toute la période révolutionnaire, et, plus près de nous, Roland de la Poippe, héros de Normandie-Niémen et grand industriel. Plus modestement, le soldat Varille a connu son heure de gloire durant les époques napoléoniennes. Madame Danielle Pirodon, vous êtes donc la présidente d'une association qui s'appelle « Il était une fois Trèpe », qui a édité un livre bien distribué autour de plus de 1200 exemplaires. Et c'est un livre sur l'histoire de votre village. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est l'origine de cette idée et puis quels sont éventuellement, après ce livre, les projets sur lesquels vous avez travaillé?
C'est un maire, monsieur D'Ametto, qui n'était pas originaire de Trèpe et qui a eu l'idée de ce projet, donc qui s'est mis en place en 2007, date de la création d'ailleurs de l'association. Le livre, il a été édité en novembre 2009. Le gros projet, c'était donc l'écriture du livre. Pour faire attendre un petit peu les Trèpetois qui étaient très impatients de connaître ce livre, on avait fait une exposition en 2008 sur la vie autrefois au village de Trèpe. Nous avons refait une exposition en 2011 sur l'école avec toutes les photos qu'on avait pu récupérer. Et nous avons fait une grosse exposition en 2014 sur le centenaire de la guerre et nous allons en faire une en mai 2017 sur le thème « C'est les Trèpetois ont du talent ». En étant pour parler avec Madame le maire pour s'orienter un peu plus sur la conservation du patrimoine et notamment sur un ensemble de palis.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la riche histoire de Trèpe? Parce qu'il y a quelques points marquants, il y a une histoire. C'est un peu un village anticonformiste, Trèpe.
Oui, d'abord par l'inscription qui est au fronton de la mairie, qui est donc « Travail, paix, liberté ». On n'a jamais bien su pourquoi il y avait cette inscription, mais enfin voilà. Et puis il y a aussi l'inscription qui est au monument aux morts. Il y a d'abord l'histoire de la famille de la Poippe, puisque cette famille qui était donc au château de Serrières est restée 7 siècles propriétaire de ce château. Le Roland de la Poippe, il a quand même pu porter ce nom parce que c'était donc Agathe Fanny se marie, donc elle s'appelait de la Poippe, elle se marie avec Paul Zedivois et leur enfants obtiennent par décret en 1864 l'autorisation d'ajouter à leur nom celui illustre des De La Poippe. Donc c'est comme ça que Roland De La Poippe a conservé ce nom.
Et il y a aussi Trèpe a une activité, on va dire, industrielle de création, je pense, dans deux domaines. Le domaine de la pierre et de la chaux, et puis le domaine du textile. Il y avait beaucoup de carrières et de tailleurs de pierre à Trèpe.
Oui, puisque au début du XXe siècle, vers 1900, il y avait 400 ouvriers carriers. L'activité des carrières s'est arrêtée avant 1950. Elle avait décliné d'ailleurs avec la guerre de 14. Mais on peut dire que la pierre de Trèpe, on la trouve notamment à plusieurs endroits de France, dont le pont Alexandre III à Paris. Et on le trouve également dans des soubassements aux États-Unis. À New York, je crois qu'il y a de la pierre de Trèpe. On en voit les traces encore aujourd'hui, puisque Trèpe, c'est avant tout un village ou maison en pierre. On trouve également les traces de les palis, qui sont les pierres dressées. Et il y a aussi les bigues, c'est-à-dire c'est des pierres étroites qui servaient pour la vigne.
Là, on a parlé de la pierre et le textile. Il y a une usine qui a tourné qui faisait du haut de gamme, qui s'appelait la Lyonne. Mais je crois qu'il y avait beaucoup d'autres usines textiles sur Trèpe.
Oui, alors effectivement, le nom de la Lyonne s'est connu par beaucoup de gens, mais il y avait aussi de nombreux ateliers à une époque, puisqu'il y avait les ateliers à la Vie de Baie, sur la Grande Rue, il y avait des chemiseries, il y avait la Maison Rossi qui était Grande Rue, il y avait l'atelier Juventin, etc. Donc, mais c'est vrai que la plus importante, c'était la Lyonne. On peut aussi parler des guimperies, parce qu'il y a eu à Trèpe, en dehors donc des chemiseries, il y avait des guimperies qui produisait des galons, du fil.
Il y a un soldat qui s'est illustré, qui, par ses contacts avec Napoléon, qui est originaire de Trèpe.
C'était une anecdote avec Napoléon, qui était encore à l'époque le petit caporal. Et ce soldat Varille était de garde. Et il était bien décidé d'être fidèle à la consigne, c'est-à-dire on ne passe pas. Et là, il voit une silhouette d'homme qui s'avance, donc il dit « halte là qui vive », l'autre s'avance encore, et le soldat varille, en abaissant sa baïonnette, dit « on ne passe pas, sais-tu qui je suis ? Quand bien même vous seriez le petit caporal, on ne passe pas ». Et en effet, c'était le petit caporal. Et voilà donc notre soldat varille qui est devenu célèbre. Et il a été décoré. Mais alors là aussi une anecdote, parce qu'il avait un cousin, Alexandre Varille. Et on pense que c'est Alexandre qui a eu la médaille et pas le soldat varille qui lui s'appelait Gaspard.
Je vous remercie pour toutes ces anecdotes et histoires autour de Trèpe.
Vous êtes sur 87.1 à l'écoute de Couleur FM, bien loin de Trèpe. Voici un grand classique du jazz, Yesterday par Billie Holiday.
Days are new and
très périche d'un grand nombre d'associations. Comme dans les communes du Nord-Isère, on y retrouve sous les écoles, la FNACA ou l'association de chasse, ACCA. Et du côté sportif, le football ou la randonnée, qui sont des associations dynamiques. Le site internet de la commune permet d'avoir les coordonnées de toutes celles-ci et les noms de leurs dirigeants. Nous en avons rencontré trois, en complément de l'association Il était une fois Trèpes qui nous a parlé de l'histoire de la commune. Elles ont attiré notre attention par leurs particularités. La sauvegarde de la chapelle de Cosance, qui œuvre depuis plus de 30 ans à la restauration de cet édifice sous la présidence de Roger Parent, entourée de son cimetière où repose entre autres Roland de la Poippe, héros de l'escadrille Normandie-Niémen, elle possède à l'intérieur un chemin de croix fait de 15 tableaux de facture moderne et de nombreux objets remarquables. L'association Musica, qui préside Pauline Vachaud, s'est donnée pour but la promotion d'une danse indienne traditionnelle. Basée sur une chorégraphie rappelant les bases de la philosophie hindouiste, c'est un excellent moyen d'évacuer stress et agressivité, tout en découvrant une des facettes de ces vieilles civilisations. Les 13 et 14 mai, cette association organise à la Salle des Roches un spectacle avec stage de formation de cette danse classique indienne sous la houlette de Josiane Sarrazin, dit Jyoti, professeur de cette discipline. Satellite du club de Mézieux, Trèpes possède une section de baseball softball. Garçons et filles de tout âge peuvent y venir s'y adonner à ce sport peu connu en France. Le dimanche 4 juin, Trèpes accueillera le défilé des vieux tracteurs, association présidée par Olivier Tisserand et que nous avons rencontré lors de notre passage à Maubec.
Bonjour, je suis avec Roger Parent, qui est le président de l'association qui s'occupe de la chapelle de Cosance. Cette association, elle existe depuis longtemps.
Elle a été fondée en 1984 par un groupe de copains qui aimaient cette chapelle, qui n'était pas en très bon état, mais pas en délabrement, et qui voulaient la restaurer. Avec l'accord de la commune des monuments historiques, on a attaqué cette rénovation, qui maintenant va très bien, amène beaucoup de monde, et c'est un bâtiment sauvé.
Les premières traces de cette chapelle remontent à peu près quelle époque ?
On parle de fin 14e, 15e siècle. Voilà à peu près où on a un peu plus d'éléments. Cette chapelle a subi beaucoup de modifications puisqu'il y avait le chœur. La nef a été certainement rehaussée. Il y a des ouvertures qui ont été faites. On a quelques traces, mais on n'a jamais bien eu de récit exact. C'est plutôt un peu ce qu'on se raconte.
Alors, il y a quelque chose dans cette chapelle qui est un peu particulier. C'est pas le litre, mais la litre.
Ah, la litre. Alors, la litre. Alors, pour vous dire ce que c'est un élément assez rare. Elle contourne extérieurement la partie ancienne, confirme les marques qui nous restent encore. Elle doit remonter au milieu du XIIe siècle, date à laquelle la terre de Serrières fut érigée en comté en 1646. Les seigneurs du lieu eurent le droit de faire peindre cette bande noire sur laquelle figuraient leurs armoiries et où ils pendaient celles des défunts alliés lors des funérailles. Ne pas confondre avec pendre les défunts, on y pend les armoiries des défunts. On a fait ressortir dernièrement les armoiries. On peut les voir encore, elles sont visibles à l'extérieur de la chapelle.
La famille noble, c'est la famille de la Poippe de Serrières, qui a certains de ses membres qui sont enterrés à l'intérieur et à l'extérieur de la chapelle. Parlez-nous un petit peu du général.
Alors le général Jean-François de la Poippe, héros de la Révolution et de l'Empire, il a vécu au château de Serrières où les deux la Poippe ont vécu 7 siècles. Il est parti ruiné de Serrières pour aller atterrir, je crois, à Bron. Et il a été inhumé au cimetière de Loyas. Et les restes sont revenus à la chapelle lors d'une grande cérémonie où tous les deux la Poippe étaient là de voir enfin ce héros retrouver la terre de ses ancêtres.
Il y a le général comme héros et il y en a un deuxième qui doit s'appeler Roland de la Poippe, qui est aussi un personnage assez exceptionnel.
Ah, ce Roland. Roland est un personnage exceptionnel, un héros de guerre, Normandie même, pilote de chasse et tout. Moi, c'est quelqu'un, pour moi je l'appelais Roland, c'est presque, on peut dire, un ami. Pourquoi il s'est tant attaché à me rencontrer, à me faire confiance, à nous rencontrer et surtout la gentillesse qu'il a eue pour la chapelle où il a beaucoup collaboré à la rénovation et ses visites étaient fréquentes. Il a tenu à ce que ça soit moi qui gère ses derniers jours, voilà, ça tombe. C'est ce qui a été fait. Nous sommes heureux que de temps en temps, beaucoup viennent se recueillir, notamment dans tout ce qui touche l'armée. Madame de la Poippe en est très fière. Et nous, ça nous fait plaisir de voir que cette chapelle n'est pas abandonnée. Le village peut vivre grâce aussi à la mémoire de Roland de la Poippe.
C'est une très belle chapelle. Et à l'intérieur, il y a aussi un chemin de croix avec des tableaux assez modernes.
Voilà, un chemin de croix qui a été fait par un artiste contemporain avec le chemin de croix qui lui compte à une 15e station qui est la résurrection. Il a été fait en accord avec les monuments historiques, c'est Sylvie Vincent qui en avait donné l'accord. Et maintenant, il va très bien avec l'intérieur de la chapelle qui a été refait aussi. On a un éclairage, on a tout. Il y aurait encore à faire certainement peut-être la toiture pour revenir comme elle était avant en lauze. Mais ça, les travaux engagés pour nous, associations, seraient trop importants. Mais ça sera certainement pour une autre affaire un autre jour.
Oui, parce que ça a un coût toujours important, ces restaurations.
Au début, quand on voulait restaurer cette chapelle, on croyait que ça se faisait comme on restaure un appartement, on fout un coup de peinture et tout. On disait, mais on n'y arrivera jamais, on va tout laisser tomber. Et puis finalement, on se prend au jeu. D'une chose, bien faite, on en veut une autre. Les années passent, mais on touchait un petit peu et ça nous encourageait. Et voilà ce qu'on a pu faire maintenant. C'est ce qu'on vous présente maintenant à la chapelle, à peu près restaurée.
C'est une chapelle, je crois que la chapelle en elle-même n'est pas inscrite comme ou classée comme monument historique, mais elle a un certain nombre d'objets à l'intérieur qui sont inscrits ou classés à l'inventaire secondaire des objets historiques.
Voilà, il y a beaucoup de monuments qui sont classés. Le maître-autel en pierre du XIIIe siècle, la statue en Christ en croix bois du XIVe, du XIXe, la statue Saint-Didier bois polychrome et doré 19e qui a été volée et remplacée dernièrement par une statue en bronze dont offert par une habitante de Cosance passionnée de la chapelle qui après son décès avait laissé une somme pour qu'on puisse refaire cette Vierge. La table de communion et une clôture en fer forgé. Voilà un petit peu les objets classés, inscrits à l'inventaire.
Donc pour conclure, on peut dire que cette chapelle est une très belle chapelle avec son petit cimetière autour et que c'est un bon endroit pour faire une petite promenade et voir au moins l'extérieur si l'intérieur n'est peut-être pas tout le temps ouvert.
Voilà, c'est une chapelle qui se dresse sur son promontoire à 291 mètres, entourée d'un cimetière. Et je dis toujours, ces cimetières de campagne ont une âme. On en revoit les anciens, on a envie de converser avec eux comme s'ils étaient encore avec nous. C'est pas pour le côté religieux, mais c'est pour la balade, le lieu, le calme.
Eh bien, merci beaucoup pour l'interview. Je suis avec Pauline Vachaud qui est présidente d'une association de danse indienne. Comment cette association s'est créée à Trèpes ?
Bien, elle s'est créée il y a à peu près 2 ans. C'était une opportunité, une occasion. Voilà, c'est une création assez récente, grâce notamment à une amie du yoga qui trouvait pertinente de faire connaître cette danse par ici.
Vous avez donc trouvé cette danse il y a quelques temps, il y a quelques années, je pense, et dans un autre lieu, puisque vous êtes trépoise depuis peu de temps. Comment vous avez découvert cette danse ?
Eh bien, je l'ai découverte pendant mes études à l'université de Grenoble. Il se trouve que le professeur qui me suit encore actuellement donnait un petit cycle de cours aux étudiants et j'ai vu sa démonstration finale et enfin j'ai eu un petit déclic comme ça. J'ai pas commencé tout de suite, j'ai commencé 2-3 ans plus tard, mais je me suis dit tiens c'est une danse pour moi, notamment parce qu'il y avait des personnages très très pittoresques, très drôles. On faisait la tortue, le poisson, l'éléphant. Je trouvais ça très très touchant.
Que à Trèpes, je pense que c'est pas tout à fait la même taille de ville que Grenoble. Comment vous allez promouvoir un peu cette danse et cette activité sur Trèpes, sans doute avec des liens avec d'autres. Vous avez parlé du yoga. Comment vous envisagez les choses?
Eh bien oui, c'est sûr que faire des liens avec d'autres associations et d'autres pratiques. J'ai une amie donc qui a l'association Triskelou, basée maintenant je crois à Saint-Romain-de-Jalonas, avec qui on a déjà fait un stage commun. J'ai organisé l'année dernière une journée qui mêlait la danse, le yoga, mais aussi des artisans créateurs de la région. Je trouvais que c'était une bonne manière de dynamiser la chose. J'ai même fait un jour un stage qui mélangeait cette danse en guise d'échauffement avec le tango argentin. Voilà, c'était une petite excursion, un petit voyage entre l'Argentine et l'Inde. Voilà, et puis, par exemple, peut-être des collaborations avec les écoles, des vernissages d'expositions, des choses comme ça. Ce sont des manières, pour l'instant, que j'ai trouvé de diffuser un petit peu cette danse et de faire connaître cette activité sur Trèpes.
Et la philosophie de cette danse, parce que comme beaucoup de danses orientales ou de danses d'Asie, il y a une philosophie derrière.
Eh ben oui, effectivement, tout à l'heure je disais que j'avais trouvé pittoresque qu'on fasse la tortue, le poisson, l'éléphant, mais en fait tout ça ce sont des figures des dieux de l'hindouisme. Et en fait, moi je ne suis pas hindouiste, je ne suis même pas sûre forcément d'être croyante, mais il se trouve que c'est une danse qui colporte tout un ensemble de mythes, tous les mythes de l'hindouisme, et aussi un petit peu les valeurs et la dimension un peu, la sagesse de cette religion. Et je trouve ça très intéressant de plonger dedans sans forcément la colporter, voyez. Mais voilà, comment une civilisation a imaginé l'origine du monde, comment une civilisation appréhende le chaos, et comment on peut incarner ça par le mime, par le théâtre, puisque c'est une danse qui est aussi danse-théâtre, danse-mime. En tout cas, je trouve ça plus drôle d'avoir un dieu poisson et un dieu éléphant qu'un dieu punition.
C'est une danse qui doit dégager une certaine sérénité, c'est peut-être quelque chose qui permet aussi de combattre du stress, de combattre une agressivité, pourquoi pas?
Ah bah effectivement, comme c'est une danse qui a les mêmes racines que le yoga, il y a à peu près les mêmes vertus que le yoga, mais avec en plus, pour moi, qui a un tempérament quand même un peu sanguin, souvent le yoga ne me suffit pas. J'ai besoin de vraiment d'abord me défouler. Il y a vraiment une manière d'évacuer l'énergie. On arrive, on est tout fatigué, tout énervé, on ressort tout bien lavé de l'intérieur. Et c'est vraiment très, 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 très appréciable. C'est un petit peu la même puissance que le flamenco, mais avec quelque chose d'un peu plus tenu.
Oui, avec la guitare en moins aussi.
La guitare en moins, mais la danseuse de flamenco ne, ne joue pas de la guitare. Mais effectivement, on est musicien aussi. C'est ça que je voudrais ajouter, c'est qu'en plus de faire de la danse théâtre, de la danse poésie, on est vraiment musicien puisqu'on fait de la percussion avec les pieds, avec des clochettes. Et ces clochettes sont un instrument de plus. Le bruit des clochettes, voilà, et les frappes de pied, sans les clochettes, mais... Ça rigole pas.
C'est une activité effectivement qui est esthétique, culturelle et puis physique et aussi décontractante.
Oui, c'est vraiment une activité pour moi très complète. Donc je ne peux que conseiller de venir me rencontrer.
De toute façon, vous êtes sur le site de la mairie en tant qu'association. Donc oui. C'est comme ça que je vous ai trouvé d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien et puis je vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup et bonne continuation à vous aussi.
Vous êtes sur 87.1 à l'écoute de Couleur FM. Petite pause musicale avec Francesca Solville, une écolière au tableau noir.
Pourquoi crier? Pourquoi se battre? Pourquoi couper le monde en quatre? Si j'ai gardé le cœur battant, c'est peut-être pour une enfant. Une enfant qui veut me survivre, qui n'a rien appris dans les livres, qui n'a jamais compris qu'il faut dresser parfois des échafauds. Si j'ai souvent le cœur qui flanche quand je suis montée sur les planches, c'est que parfois je crois revoir une écolière au tableau noir. Qui ne retenait pas grand-chose des rois qu'on nomme et qu'on dépose, qui ne comprenait pas pourquoi on met parfois le monde en croix. Comme une rose qu'on déguise, je la vois dans sa blouse grise qui confondait le nom des chefs, Charlemagne et Pépin le Bref. Les sinistres leçons d'histoire rentraient pas bien dans sa mémoire. Elle avalait pas la pilule des exploits du premier consul. Elle avait des mauvaises notes comme on en met à la linotte. Elle avait des triples zéros comme on en donne aux étourneaux. Le joli jeu de la marelle entrait bien mieux dans sa cervelle. Elle aurait eu bien des bons points au joli jeu des quatre coins. Le soir avant que j'entre en scène, je la vois près de la fontaine par un beau jour ensoleillé quand elle avait tout oublié. Et c'est pour cet enfant sauvage qui se perdait dans les nuages pour faire un monde à sa façon que moi je vis dans mes chansons. J'ai parfois les mains qui tremblent, c'est que mes chansons lui ressemblent. Ce sont des chansons, des tourneaux de malheureux petits Pierrot qui n'ont jamais compris qu'on jette tant de bonheur aux oubliettes, ni qu'on dessine au tableau noir le chapeauté du désespoir. Ni qu'on dessine au tableau noir le chaboté du désespoir.
Trèpe possède une section de baseball. Donc je suis avec Patrick Brun qui en est le président ou responsable. Il va vous dire depuis quand et comment le baseball est arrivé à Trèpe.
Bonjour, donc le club de baseball existe depuis maintenant 3 ans. C'est une jeune antenne du club de Mézieux.
Donc ce club qui existe depuis 3 ans est satellite de Mézieux. Pour quelle raison est-ce qu'il a été créé comme satellite à Trèpe ?
En fait, il a été créé pour amener un peu plus de licenciés sur le club de Mézieux. On avait un petit peu du mal à recruter et on a eu cette idée, plutôt que de faire venir les jeunes à Mézieux, le baseball est venu aux jeunes dans d'autres communes. Donc comme moi j'habite à Trèpe, je fais du baseball depuis maintenant un peu plus de 20 ans et on a eu cette idée-là. Donc on a créé cette antenne il y a 3 ans et on a maintenant 16 licenciés entre 9 U et seniors.
9 U veut dire que c'est la section qui va de 6 à 9 ans, je crois. Hein.
Voilà, c'est ça, de 6 à 9 ans.
En tant que club, finalement, c'est le club de Mézieux, avec cette antenne. Oui. Au niveau des compétitions, ça se passe comment? C'est les compétitions du club de Mézieux auxquelles vous participez?
Donc nous, on s'entraîne à Trèpe. Ensuite, tous les week-ends, nos jeunes se retrouvent sur les terrains de baseball des différents clubs de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Nous avons des championnats donc de 9 U, 12 U, 15 U... et seniors. Tous les jeunes sont le samedi, le dimanche, les adultes. Les jeunes jouent tous en régional. Qui concerne les adultes, il y a 3 niveaux régional, 2 niveaux national, et après nous avons la première et deuxième division. Le club de Mézieux, seniors, il y a une équipe qui évolue en régional 3. Ensuite, vous avez une équipe qui évolue en régional 1, qui est là beaucoup plus compétitive. Qui, elle, évolue pour monter en national.
Peut-être parler un petit peu du jeu maintenant, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le baseball. Déjà, le terrain, la forme du terrain.
Donc, la forme du terrain du baseball est assez particulière, parce qu'il ressemble à un diamant, où vous avez le départ du jeu se fait sur la pointe. Le baseball se définit en 2 équipes de 9 joueurs. Vous avez une équipe qui se trouve donc en défense, qui est positionnée sur ce terrain en forme de diamant. Donc vous avez le lanceur, le receveur et les autres joueurs qui sont disposés sur la première base, deuxième base, troisième base. Et vous avez les autres joueurs, ce qu'on appelle le champ extérieur, qui sont tout à fait au fond. Ensuite, vous avez la deuxième équipe. On va l'imaginer sur un banc. Et chaque joueur va passer chacun à son tour au bâton. Donc ce joueur qui est au bâton doit frapper la balle le plus fort et le plus loin possible pour arriver sur chaque base avant que la balle ne revienne. Quand le joueur a effectué un tour, il marque un point.
Hormis pour les jeunes, vous y mettez un petit peu des limites, mais il n'y a pas de match nul et puis il n'y a pas de limitation de temps.
Donc les matchs se jouent en 7 manches. Donc une manche, c'est quand une équipe passe à l'attaque et à la défense. Pour les jeunes et la R3, il y a une limite de temps pour que les matchs ne soient pas trop longs. Et le temps, environ 2 heures.
Moi, j'ai entendu parler de softball. Chez les Québécois, j'ai même entendu parler de balle molle. Alors, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi cette petite différence?
Alors oui, vous avez le baseball et le softball. Donc, le baseball, ça se joue avec des petites balles en cuir qui sont très, très dures. Vous avez le softball qui se joue avec des balles en cuir aussi, mais qui sont un petit peu plus grosses, à peu près le double en diamètre. Et ensuite, vous avez le soft mixte, la balle molle.
Alors c'est un sport qui peut être mixte à tous les niveaux.
Oui. Le baseball est un rare sport, je crois, où les filles peuvent jouer avec les garçons. Et vous avez le softball, là où il n'y a que des équipes de filles. Vous avez le softball masculin aussi et vous avez le softball mixte.
Donc on peut dire à toutes les filles de Trèpes, si elles veulent venir jouer au baseball, elles peuvent.
Oui, oui, elles seront toutes la bienvenue.
Que ces équipements de protection sont souvent prêtés par les clubs, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement inclus dans la licence de baseball.
Oui, oui, alors nous fonctionnons comme ça. Hein. Les jeunes prennent une licence et le club fournit la tenue, le matériel, tout est fourni par le club.
C'est un sport qui se joue en plein air, je crois que dans l'Amérique du Nord on le joue surtout l'été.
Alors oui, c'est un sport en plein air, donc nous avons un championnat de mars à fin juin. Ensuite, il y a des tournois en hiver en gymnase.
Et comme dans tous les sports, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne entente.
Ah oui, il y a toujours une bonne ambiance.
Vous avez, à mes yeux, ou peut-être dans la région Rhône-Alpes, des gens qui sont salariés à plein temps et qui vont dans les écoles et qui font au niveau des nappes et des tapes, qui interviennent pour initier au baseball.
Oui, oui, le club a trois licenciés, trois jeunes, donc qui s'occupent au sein du club du coaching des jeunes et en alternance, en journée, font des formations, des stages dans les écoles au niveau des nappes et des tapes.
Mais écoutez, M. Brun, moi, je vous remercie de m'avoir consacré un peu de temps. Et puis, je crois que vous allez retourner à l'entraînement avec les quelques jeunes. On est en période de vacances, donc il y a un peu moins de monde. Donc, bonne chance et puis bon vent pour votre club. Trèpes possède deux entreprises importantes. L'européenne des choses liant, qui exploite une carrière au nord de la commune, et l'entreprise MTB, spécialiste dans le recyclage des métaux non ferreux. La compétence de cette dernière s'étend également dans la fabrication de machines et l'ingénierie du recyclage. Elle rayonne dans le monde entier. Lors des contacts pris pour notre entretien, son PDG, Jean-Philippe Fusier, était aux États-Unis pour négocier des contrats. Parmi les toutes petites entreprises implantées sur la commune, une a retenu plus particulièrement notre attention. Claude Tolaigne, photographe, éditeur, journaliste et auteur de livres sur la photo, rayonne sur toute la France. Claude Tolaigne, photographe, éditeur, journaliste et auteur de livres sur la photo, rayonne sur toute la France depuis les rencontres internationales d'Arles, où il anime des stages, jusqu'aux articles qu'il écrit dans les revues photographiques, en passant par la réhabilitation de procédés anciens. C'est un grand nom de la photographie contemporaine. À Trèpes, le monde agricole est aussi à la pointe de la modernité avec le GAEC de la Goula. Exploitation laitière entièrement automatisée. La famille Robin, par la voix de Nicolas Robin, nous parlera du pari de la maternité qu'ils ont effectué aussi maintenant 4 ans. Ces trois entreprises que nous avons rencontrées sont représentatives du riche tissu économique de Trèpes, où se côtoient des entreprises de toute taille et un large éventail d'artisans.
Claude Tolaigne, vous êtes photographe, éditeur et journaliste basé à Trèpes, que vous êtes aussi un passionné de photographie plus classique avec une association qui s'appelle Noir d'Argent et puis des recherches sur des procédés anciens aussi comme le procédé de collodion humide. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos activités?
Bien oui, effectivement, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Au niveau photographique, je fais partie de Noir d'Argent, donc une association qui est de Nivola Vermel. Et ça, c'est le côté, je dirais, amateur de la photographie, puisque j'ai une activité professionnelle évidemment de photographe avec Noir d'Argent. Donc nous travaillons à l'ancienne en argentique et en noir et blanc exclusivement, ce qui m'a permis au bout d'un moment de revenir à des procédés anciens, effectivement comme le collodion humide, qui est le second procédé photographique qui a existé et qui s'est développé dans les années 1860. Donc que je pratique, c'est de la photo sur plaque de verre.
Vous avez aussi quand même une activité professionnelle de photographe et d'éditeur et de journaliste.
Voilà, c'est-à-dire que depuis maintenant plus de 20 ans, j'ai bifurqué vers la photographie et j'ai développé pas mal de choses au niveau de la photographie. Donc j'ai d'abord une activité de photographe professionnel essentiellement tournée vers les entreprises, c'est de la photo industrielle, donc où je fais des photos pour les plaquettes, pour les sites internet, pour les publicités. Donc dans ma société, donc Malampia, j'ai aussi une activité d'édition avec le nom de la maison d'édition qui s'appelle Bichromia. J'ai commencé par éditer des livres techniques sur la photographie. J'en ai édité une vingtaine à peu près, oui. Enfin, j'en ai écrit plus chez d'autres éditeurs, mais pour commencer, mais voilà, j'ai édité une vingtaine de livres sur la photographie. Puis, petit à petit, en fonction des coups de cœur, j'ai édité d'autres livres. J'ai commencé en fait avec un livre sur Saint-Savin que j'ai co-écrit avec un ami. Par la suite, j'ai aussi fait des livres, on va dire, sur les histoires de villages, notamment Il était une fois Trep, qui est le nom de l'association, qui a écrit le livre.
Vous pouvez nous parler un petit peu du parcours qui vous a amené à la photographie, parce que je crois qu'au départ, votre formation n'est pas spécialement une formation de photographe.
Parcours un tout petit peu atypique, puisqu'effectivement, j'ai fait une école d'ingénieur à Poitiers, en aéronautique, et j'ai par la suite donc travaillé quelques années au Centre National d'Études Spatiales, notamment sur la fusée Ariane 5, où je m'occupais du pilotage numérique. Et puis j'avais une passion qui était la photographie depuis tout petit. D'ailleurs, quand j'ai fait mon école d'ingénieur à Poitiers, j'ai participé au premier livre qui a existé sur le futuroscope, qui était en train de se monter à l'époque. Et au bout de quelques années, j'ai tout arrêté pour reprendre des études de photographie à l'École nationale supérieure Louis Lumière à Paris. Et à l'issue de cette école, je suis devenu photographe. Je suis aussi devenu, dans cette école, professeur d'optique et de numérique, puisque la photo numérique commençait à pointer son nez à cette époque-là. En même temps, à côté, a commencé à écrire des articles pour les magazines, donc une activité de journaliste. Et à côté de ça, une activité de reporter, photographe à l'époque. Donc c'est à partir de là que les activités ont commencé à se multiplier, peut-être un peu trop.
Vous avez dit que vous faisiez des articles dans des revues photos. Quelles revues?
Alors, j'ai travaillé dans pas mal de magazines photos, mais maintenant je travaille exclusivement pour un magazine qui s'appelle Réponse Photo, qui est le deuxième magazine en France, et je m'occupe aussi de tous les tests, le test d'objectifs, voir les qualités des différents objectifs.
Vous êtes originaire du sud du Dauphiné?
Je suis né à Romans, j'ai fait des études de classe prépa à Grenoble avant de partir à Poitiers, puis Paris, puis j'ai atterri à Bourgoin-Jallieu à la naissance de ma première fille. Avec ma femme, on voulait pas que nos enfants vivent à Paris. Donc l'anecdote, c'est que j'ai découvert Bourgoin-Jallieu avec un ami qui a fait la formation photographique avec moi, qui s'appelait Bruno Cotalorda et qui était le fils du premier adjoint.
Vous développez, je crois, vous tirez les photos de Bruno Cotalorda?
Oui, à l'origine, Bruno avait créé une association qui s'appelait Diaporamonde et il projetait ses diapos dans plein d'endroits, et il faisait des reportages dans le monde entier.
Toujours installé à Trèpes, du travail un peu partout?
Oui, alors j'ai implanté ma société à Trèpes il y a une dizaine d'années, et puis effectivement je me déplace beaucoup, prendre des contacts, continuer avec le salon de l'édition, le salon de la photo, et à côté de ça je me déplace aussi pas mal à l'étranger pour aller faire des tests pour certaines marques comme Canon, Nikon, voire Pentax, où là je circule un petit peu dans le monde entier.
Vous avez quelques liens avec les rencontres photographiques d'Arles?
Alors oui, alors je ne l'en fais plus depuis quelques années, mais il y a aussi une autre corde à mon arc dont on n'a pas parlé, c'est que j'ai encore une activité de formateur. On a créé avec Denis Palanque, qui est un photographe de Montcara, un photographe assez connu en photographe animalier, on appelle l'atelier Grain de Lumière, où on organise des stages de formation. Et auparavant, j'ai donné des stages pendant les rencontres photographiques d'Arles, donc chaque été en juillet.
Bel exemple de parcours, merci Claude Teleil.
Ben merci à vous, et à bientôt.
Vous êtes sur 87.1 à l'écoute de Couleur FM. Tout l'humour des frères Jacques dans cette chanson qui se moque de l'époque yéyé, le twist agricole.
Cultivateur, le twist du rural, c'est phénoménal. On a ça dans
Trèpe, le Gaec de la Goula, a une particularité, c'est qu'il est une ferme donc qui est exploitée par la famille Robin depuis déjà plusieurs générations. Et cette ferme a été, du côté élevage, pour le lait, a été complètement automatisée il y a 4 ans. Je vais demander à Nicolas Robin comment est venue l'idée d'automatiser son exploitation.
Donc nous avons automatisé l'exploitation il y a déjà 4 ans, dans un but qu'on avait un départ en retraite de mon père, donc qui devait arrêter, mais qui a toujours pas arrêté. Et puis surtout c'était par rapport à la main d'œuvre, quoi. Donc aussi au confort de travail par rapport à la vie familiale. Donc l'investissement a été fait, c'est vrai que c'est agréable.
Oui, donc cet investissement a été fait, c'est un investissement très important, donc ça veut dire que ça demandait des aides, ça demandait des aides financières, ça demandait des conseils extérieurs, je pense aussi.
Il n'y a pas eu d'aide ou très très peu, c'était un investissement de 500 000 euros, donc on avait une perspective laitière qui était très bonne, des marchés porteurs, donc on est parti là-dedans en y croyant.
Et pour l'instant, malheureusement, le marché laitier est un petit peu moins porteur.
Donc ouais, ce qui s'est passé, c'est que 2 ans après nos investissements, les marchés laitiers sont dégringolés, 30%, enfin même plus de pertes. Et donc ça fait 3 ans que ça dure et aucune perspective là-dessus.
J'ai cru comprendre que vous étiez en train de faire une démarche pour accéder au marché du bio. Est-ce que ça fait partie du changement? Est-ce que le marché du bio permet d'avoir des coûts un peu meilleurs?
Oui, donc là on est parti sur l'optique du bio. Donc on a choisi cette option du bio par rapport au marché. Donc c'est vrai qu'il y a des marchés porteurs, une consommation qui n'arrête pas d'augmenter sur le bio, que ce soit sur le lait ou sur toute production, quoi. Donc il faut satisfaire cette demande. Et donc on va commencer par s'auto-satisfaire et puis le reste, on verra, quoi. Autoconsommation du troupeau, plus dépendre des autres, au minimum.
Parce que parallèlement à la partie élevage, vous avez aussi une partie production de céréales, production de foin. Finalement, ce que vous voulez faire, c'est être autosuffisant sur l'ensemble.
Oui, jusqu'à présent, donc on produisait notre protéine et puis on achetait quand même un manque sur le marché. Aujourd'hui, sachant qu'on a de la surface suffisante, donc on va tout produire pour nos bêtes et puis vendre le peu d'excédent qu'il y a sur des filières un petit peu plus valorisantes avec du bio.
Vous avez donc investi 500 000 euros. C'est du matériel qui demande de l'entretien. Donc vous avez une maintenance qui est assurée par les professionnels, en particulier l'entreprise qui vous a vendu le matériel. Et cette maintenance, elle a un coût.
Oui, donc c'est vrai que c'est du matériel compétent, hein. C'est du matériel qui marche très bien, on n'a pas de soucis particuliers sur ça, les bêtes s'y sont bien faites, nous aussi, quoi, ça a été très vite l'adaptation de tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez des marchés qui sont en face, qui sont pas rémunérateurs, donc c'est difficile d'arriver à payer ces coûts de maintenance.
Cet investissement que vous avez fait, il présente, je crois, un certain nombre d'avantages, il présente un certain nombre d'inconvénients aussi. Quels sont déjà les avantages?
Oh ben les avantages, c'est du confort animal, quoi. Et confort aussi pour nous, aux souplesses d'ordre de travail. La personne qui a une vie familiale qui l'occupe bien, éventuellement, il peut venir aux heures qui c'est un peu plus creux chez lui, quoi. Mais sachant qu'il faut toujours avoir l'œil sur l'animal. Ben les animaux se traitent quand ils veulent, ils consomment quand ils veulent la nourriture, donc ils sont tranquilles, quoi. On n'a pas de, ça diminue nos frais de vétérinaire quand même. L'inconvénient, enfin, on était conscient quand on a fait l'achat, hein, c'est qu'on n'est jamais tranquille. Si dans la nuit, les animaux, il y a eu un problème sur l'appareil de traite, ben, il faut venir réparer, quoi, que ça soit la nuit ou le jour. C'est du non-stop, c'est de l'assistance téléphonique, quoi. Ils appellent, ça appelle, et puis il faut se déplacer.
Les animaux, en même temps, sont connus par le système, parce que je crois qu'ils ont un collier qui permet d'avoir d'identifier ce qu'ils ont. Donc il y a aussi une détection plus rapide des maladies ou des petits inconvénients des animaux.
Quand ils passent à la traite, en fait, ça l'identifie, et donc ça analyse de l'œil. Et donc s'il y a un problème d'infection, quoi que ce soit, ça nous met une alerte sur un ordinateur. Et donc à ce moment-là, ben, c'est nous, quand on vient consulter 2 à 3 fois par jour cet ordinateur, qu'on voit que le problème qu'il y a sur l'animal. On y voit tout de suite, donc c'est plutôt un gros avantage, hein. Et puis les animaux, ils viennent d'eux-mêmes, quoi. Donc on n'a pas à les forcer, ils n'ont pas de stress. Il faut leur apprendre au démarrage, mais après, une fois que c'est parti, c'est comme un gamin, quand on lui apprend quelque chose, après il y va tout seul.
Petite question pour terminer, si c'était à refaire, vous le referiez ?
Si les marchés sont porteurs, oui, je pense, ouais. Quand on ne sait pas combien on vend nos produits, et puis à côté de ça, on a nos crédits qui tombent, c'est un aspect très difficile. Après, sur l'aspect travail, c'est pas mal quand même. Mais l'aspect économique vous prend le dessus quand même.
Merci Nicolas Robin. Je suis à la société MTB avec David Ravet, qui est directeur développement et partenariat, qui va nous parler de cette société implantée à Trèpe.
Alors, donc, la société MTB a été créée en 1981 par Francis Sevilla, qui à l'époque était ingénieur dans la fabrication des câbles électriques et qui s'est intéressé au recyclage et a conçu le premier broyeur de traitement de câbles électriques français pour pouvoir valoriser ce type de déchets. Et il s'est installé tout début des années 80 donc sur un site qui était une friche industrielle à l'entrée de la commune de Trèpe, qui était une ancienne usine à chaux donc dans le quartier de la gare. Et il y a installé le siège social de l'entreprise MTB, les ateliers de fabrication et également quelque chose qui perdure encore aujourd'hui, un site de traitement de déchets qui avait pour objectif de comprendre la façon dont on pouvait traiter les déchets, comprendre comment on était capable de les broyer. Et donc ça l'a aidé à l'époque à concevoir ses premières usines de traitement et à concevoir des équipements pour pouvoir valoriser ses déchets.
C'est une entreprise qui depuis 35 ans a connu un beau taux de croissance. Vous êtes à combien de salariés maintenant? Combien de sites? Quels sont les pays où sont implantées la société MTB?
Alors effectivement, aujourd'hui, nous sommes 120 salariés avec une très grosse accélération au niveau des recrutements depuis l'année 2011, puisque 2011 a été marqué par la retraite du fondateur, Monsieur Sevilla, et la reprise de l'entreprise par le directeur général de l'époque, qui s'appelle Jean-Philippe Fusy, qui est devenu le président de l'entreprise. Depuis cette époque, donc on est maintenant 120, avec 3 sites de traitement, donc le site de traitement de recyclage, l'acte assemblage qui se fait sur un second site, et nous avons ouvert il y a 2 ans un 3e site qui se trouve actuellement sur la commune de Saint-Chef, donc dans la zone d'activité du Rondeau, où on va retrouver tout le pôle grenaillage, peinture et usinage. D'un point de vue international, puisque c'est une société qui est principalement axée vers l'export, nous faisons 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. Nous avons une entité commerciale en Allemagne et également tout un réseau d'agents qui travaillent pour nous dans le monde entier. Notre premier marché étant les États-Unis, nous avons un partenariat privilégié avec un agent nord-américain basé à côté de Buffalo qui a un stock de pièces et qui s'occupe de la commercialisation de nos équipements sur tout le Nord-US.
Je crois qu'il y a 3 domaines d'activité assez précis pour MTB. Est-ce que vous pouvez en parler ?
Alors effectivement, notre première activité, c'est de concevoir et de fabriquer localement des équipements de traitement de déchets. Donc équipements, j'entends des systèmes de broyage, des systèmes de tri mécanisés ou utilisant des technologies autour du magnétisme avec des aimants, donc des courants de Foucault et des séparateurs magnétiques. Ça, c'est la première activité. Pour pouvoir concevoir ces équipements, on s'est penché depuis longtemps donc sur l'activité du recyclage et on s'est transformé nous-mêmes en opérateur de traitement. Donc notre site de traitement qui est un grand laboratoire et un showroom a quand même une capacité de 40 000 tonnes de déchets par an. Et puis, depuis ces 10 dernières années, nous avons complété notre gamme d'intervention par une dimension d'ingénierie, puisque nous sommes maintenant capables de proposer des solutions complètes de traitement avec des usines clés en main qui vont être utilisées dans différentes familles de déchets, pas uniquement les câbles comme à l'origine, mais on est capable maintenant de traiter quasiment toutes les typologies de déchets qui sont générées par les êtres humains dans leurs activités quotidiennes.
À ce sujet-là, il y a beaucoup de déchets en mer, en particulier les plastiques. On en parle beaucoup en ce moment. Et je crois qu'il y a un travail qui est en train de se faire à ce niveau-là, entre MTB et puis, je crois, un navigateur assez connu qui s'appelle Monsieur Bourgnon.
Ouais, tout à fait. Effectivement, depuis plusieurs années, la préoccupation primordiale et première de MTB et qui est portée par notre président, effectivement, c'est l'économie circulaire, c'est la défense de l'environnement. Pas simplement réduire l'activité recyclage des déchets à un business comme un autre, mais vraiment avec une part environnementale forte et une part sociale également. Et on s'est rapproché depuis quelques mois d'une association qui s'appelle The Sea Cleaners, qui est portée par le navigateur Yvan Bourgnon, qui, à l'occasion d'un tour du monde en solitaire, a pu constater les dégâts qui étaient causés au milieu maritime par tous les déchets plastiques qui se trouvent disséminés dans le monde entier. Et son objectif est de créer un bateau de collecte et de traitement de ces plastiques en mer. Étant donné que MTB est déjà très impliqué dans l'activité environnementale et que nous adhérons parfaitement aux valeurs qui sont portées par ce projet, il a été décidé de se rapprocher de cette association pour pouvoir concevoir le bateau qui sera utilisé dans les années qui viennent, à peu près vers 2021, pour pouvoir aller collecter des plastiques en mer, les traiter localement et pouvoir leur trouver une seconde vie plutôt que de les laisser dériver et créer ce qu'on appelle le 7e continent, malheureusement.
Vous avez un souci de développement durable, que vos machines ne sont pas consommatrices d'un certain nombre de choses.
Effectivement, depuis 4 ans, nous avons lancé un programme d'éco-conception de nos équipements, avec la préoccupation première de chercher à minimiser autant que possible les impacts sur l'environnement de nos procédés. Donc on a à ce titre mis en place ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, où on va pouvoir évaluer l'impact environnemental et surtout les gains environnementaux que l'on est capable d'apporter à une activité de recyclage. Donc on a embauché un jeune thésard, un spécialiste dans ce domaine, pour nous aider à éco-concevoir nos équipements et à améliorer nos performances.
Écoutez, merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour MTB ?
Non, mais ça ira très bien. Merci beaucoup. En tout cas, notre volonté est de pouvoir promouvoir et continuer à développer nos activités, en tout cas localement. L'ensemble de nos partenaires et sous-traitants sont tous basés en Rhône-Alpes. C'est une vraie préoccupation et une vraie volonté de notre part de poursuivre ce développement local et de promouvoir les savoir-faire qu'a de Nord-Isère et de la région Rhône-Alpes plus généralement.
Merci beaucoup, Monsieur Ravet. Notre visite de la commune de Trèpes est maintenant terminée. Notre prochaine édition ira à nouveau au sud de l'ancienne Nationale 6 et nous allons découvrir Saint-Victor-de-Cessieux et les mystères de la forêt de Valin.